Bonjour, plus de 15 000 pieds de bananiers ont été distribués à Kisangani. Ces pieds de bananiers ont été produits par la méthode in vitro. C'est un projet qui a été mis sur pied par le professeur Deida Djailo, doyen de la faculté des sciences de l'université de Kisangani. On vous fera découvrir cette très très belle expérience. La population de Kananga vit dans un état d'extrême pauvreté. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le comité provincial du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Ce comité a validé des enquêtes effectuées dans la ville de Kananga. Selon les conclusions de ces enquêtes, l'état d'extrême pauvreté est dû au manque quasi total d'industrie au Kasaï occidental. On en saura un peu plus tout à l'heure dans le magazine Okapi Action. À suivre aussi aujourd'hui la découverte d'un jardin d'Éden, c'est ce que j'allais dire, comme si on remontait à l'origine de la création. Si vous prenez la route vers le Bas-Congo, vous pouvez vous arrêter quelque part, à quelques kilomètres d'ici, pour découvrir ce fameux, ce magnifique jardin de Kisantu, créé en 1900. Aujourd'hui, ce jardin est assez vieux. On le découvrira tout à l'heure. Et puis vous savez, les camionneurs qui viennent de Matadi remontent cette route parfois à vive allure. Il se passe malheureusement des accidents et l'hôpital en mi-chemin sur cette route, c'est l'hôpital général de Kisantu. C'est cet hôpital qui reçoit certains accidentés de route. Malheureusement, il y a des accidentés qui prennent la poudre d'escampette une fois les urgences passées. Ah ben, quelqu'un me regarde avec ses yeux étonnés. Mais oui, c'est vrai, malheureusement, on en parlera pour savoir ce qui se passe dans cet hôpital et comment des gens peuvent arriver à fuir dès lors que les dangers de la mort est passé. Voilà, Okapi Action, ça sera autour de ces quatre sujets aujourd'hui. Nous sommes le 30 décembre 2004, jour J moins 1 avant la Saint-Sylvestre. Dans deux jours, ça sera la Bonana. Merci d'être avec nous. Et en fausse ouverture, je peux vous dire, parce que pendant l'émission d'hier, on avait reçu Hortense Kavuo, 25 ans, personne avec handicap physique, finaliste en économie bancaire. Et il y avait un auditeur qui voulait savoir quel est l'état civil de Hortense. Elle a déjà répondu. On vous donnera la réponse pendant cette émission. Mais bon, rendons-nous d'abord à Kisangani pour évoquer cette belle expérience qui réussit. Plus de 15 000 pieds de bananiers ont été produits par la méthode in vitro. Ces pieds de bananiers ont été déjà distribués. Le projet est l'œuvre du professeur Zeda Djailo, doyen de la faculté des sciences de l'université de Kisangani. On peut dire que l'expérience porte déjà ses fruits. Le professeur Zeda s'attend déjà à une augmentation de la sécurité alimentaire s'il faut s'atteler au principe que lui-même a rendu public un hectare d'un champ de bananiers qui produit 20 tonnes de régime de bananes par an. Alors on va parler de cette belle expérience au niveau congolais avec notre confrère André Kitenge en direct de nos studios de Kisangani. André Kitenge, bonjour.
Bonjour Walter Mulombi.
On sent que tu as peut-être mangé des bananes déjà ce matin, ta voix porte à quelques jours de la fin de l'année. Mais bon, soyons sérieux, revenons à cette expérience du professeur Benoît Zeda Djailo. Pouvez-vous nous dire à quand le professeur a commencé son projet de multiplication des pieds de bananier?
Oui, Walter, c'est depuis 1998 qu'a débuté ce projet de multiplication de bananiers. Et selon le professeur Deda Djailo, que vous connaissez bien, qui est doyen de la faculté des sciences de l'université de Kisangani, plusieurs méthodes permettent à son équipe de réaliser ce projet, notamment la méthode à champ ex situ, germino somatique et in vitro. Vous comprenez que ce sont des méthodes un peu compliquées.
On en parlera avec lui.
Déjà plus d'une année depuis que le professeur Deda a débuté avec la méthode in vitro. Selon lui, bien que cette méthode a des exigences, elle donne plus de plantules par rapport aux autres. Deda Jailo nous explique ce que donne cette méthode.
Alors, la multiplication in vitro, c'est fait au laboratoire, donc complètement au laboratoire, dans des tubes à essai. Alors, ce petit bout, qui est le méristème, est prélevé, est placé sur un millier de cultures solides, un tube à essai, un millier qui contient des sels minéraux adaptés, des vitamines et des hormones de croissance. Ces hormones sont les mêmes hormones que la plante produit normalement, mais ici, nous allons forcer la dose pour augmenter la prolifération de ces bourgeons-là. Par an, avec cette technique, on peut déjà, à partir d'un seul bourgeon au début, avoir 10 000 plantules par an. Donc, ce qui est à partir d'un bourgeon, ce qui est déjà considérable. Alors, une autre méthode que nous avons, sur laquelle nous avons réalisé des publications par le passé, c'est
Sera à suivre tout à l'heure avec le professeur Deda qui sera notre invité en deuxième partie de l'exploitation de ces sujets. Mais André Kitenge, je reviens à vous. Actuellement, quels résultats avez-vous observé en rencontrant ces scientifiques au sujet de ce projet de multiplication in vitro des bananiers?
Oh, Walter, la faculté des sciences a déjà débuté la distribution des produits de cette recherche dans la ville de Kisangani et ses environs. Déjà 15 000 rejets de bananiers sont mis à la disposition de la population dans divers sites agricoles de la province. Professeur Deda.
D'abord, c'est nous-mêmes nous avons planté autour de Kisangani, se résume à 6 000 pieds. Depuis qu'on a commencé à voyer chez les planteurs déjà 9 000 plants de bananiers. Alors 9 000 plants de bananiers représentent à peu près donc 9 hectares de bananiers. Chez nous, un quart d'hectare donne 5 tonnes de bananes, de régime de bananes par mois. Multiplié un quart déjà par 4, ce qui nous donne pratiquement 20 tonnes par an. Donc, ce qui veut dire à définitive que la production de bananes dans notre région, dans tous les cas, aura augmenté parce que 9 000 plantules livrées constituent une surface augmentée de plantation de bananiers chez nous. Donc, alors, pour le moment, il y a eu chez les fermaristes, nous avons donné une bananier vers 8 km sur la route de l'aéroport, vers 6 km la route de Bouta, et puis là, les restes, la plus grande partie, c'est vers 14 km sur la route de la Seine route de Bouta, et à 15 km la nouvelle route de Bouta.
Et voilà, les précisions sur des zones de distribution des rejets de bananiers, données ici, les précisions par le professeur Deda en personne. André Kitenge, comment, disons, cette expérience a-t-elle été accueillie par les Boyomés et autour de Kisangani, et comment s'est fait la distribution des rejets de bananiers?
C'est un projet qui a été accueilli avec joie. Plusieurs demandeurs d'ailleurs sollicitent ces rejets de bananiers, nous a dit professeur Deda. Ils sont soit des associations, soit des individus, et parmi eux nous avons même l'organisation non gouvernementale LWF, et nous allons suivre tour à tour professeur Deda et docteur Lobozei, qui est coordonnateur humanitaire de cette ONG LWF.
Au début, c'était LWF qui nous a demandé énormément de plantules de bananiers. Il a eu à peu près 1 000 rejets de bananiers. Ouais. Donc ça, c'était au début. Alors, ces bananiers, à l'époque, étaient destinés à mettre autour des centres nutritionnels. Mais maintenant, nous n'avons pas les suivis de ça, si ça a été fait ou ça n'a pas été fait. Mais nous avons eu par après une dizaine de personnes, généralement des individus, qui ont des petites concessions, qui sont venus nous demander également les bananiers. La plupart des temps, la demande se situe autour de 500 à 1000 pieds du bananier. Nous avons une seule fois eu une demande qui allait jusqu'à 2000 pieds de bananier, ce qui est déjà une plantation considérable pour un individu, pour les bananiers.
Oui, nous avons payé environ 1000 pieds de bananier que nous avons disponibilisés dans les centres nutritionnels pour donner aux parents des enfants malnutris. Et l'ECC, comme notre partenaire, à travers ces centres, ça n'est servi pour la distribution et les suivre. Pas mal de centres nous ont donné les rapports comme quoi et ils ont semé et maintenant les uns sont en train de consommer les bananes actuellement.
Et voilà, on consomme des bananes à travers la République démocratique du Congo. C'est assez intéressant. Mais André Kitenge, dites-nous, avant... disons 98, année à laquelle le professeur Deda a commencé ses expériences, est-ce qu'il y avait assez, suffisamment, si vous voulez, de bananes à Kisangani?
Oui, il y a suffisamment de bananes à Kisangani, mais selon le professeur Deda, bien qu'on trouve beaucoup de bananes à Kisangani et ses environs, la quantité n'est pas telle qu'il les souhaite, lui. C'est pourquoi les demandeurs bénéficiaires de rejets de bananes issus de la méthode in vitro bénéficient d'un suivi d'encadrement pour qu'ils arrivent à produire davantage. Une fois de plus, Deda Djaïdo.
Les demandeurs, généralement, nous demandent comment planter et comment entretenir. Et bien sûr, le reste constitue un problème de main-d'œuvre, un problème de superficie, un problème aussi d'entretien qui demande de l'argent. Mais dans le meilleur des cas, le demandeur est suivi sur terrain pour des conseils supplémentaires d'entretien ou lorsqu'il observe qu'il y a une déformation, une sorte de maladie qui apparaît, il vient faire signe pour demander de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors des conseils adéquats sont donnés pour prendre des dispositions utiles pour améliorer ce dont il a besoin, donc son bananier.
André Kitenge, nous avons entendu tout à l'heure le professeur Veda dire que un hectare d'un champ de bananier avec cette expérience pourrait produire 20 tonnes de régime de bananes par an, ce qui est une grande première. On peut parler même d'une grande avancée dans la recherche agricole au niveau de notre pays. Ça se passe à Kisangani et dans les environs. Le professeur nous a un peu donné quelques éléments par rapport à l'aire de distribution du fruit de cette expérience. Est-ce que le professeur Veda et son équipe de travail pense étendre ce projet dans le reste de la République démocratique du Congo parce que on peut en avoir besoin, ça ne doit pas seulement rester à Kisangani, non?
Effectivement, c'est ça son souci. Selon lui, le projet vient d'être d'ailleurs soumis au gouvernement. Nous l'écoutons.
Le projet pour couvrir toute la province orientale s'oriente actuellement vers trois projets. Donc il y a un premier projet en relation avec les ressources plantées dans la région. Le deuxième projet, c'est la multiplication justement en masse pour pouvoir produire des plantules de bananiers dans le cadre de la relance agricole de la ville du district de la Tchopo pour nourrir la ville de Kisangani. Et le troisième volet, c'est un projet national bananier qui va travailler pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et ce projet est fait en collaboration avec un collègue de l'Université de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa, donc professeur Mobambo. Et alors, probablement, donc, moi je ferai le relais du côté est pour ce programme national si elle aboutit. Alors, il s'agira ici d'augmenter la sécurité alimentaire en augmentant la production bananière qui est considérée comme la voie la plus rapide.
Voilà, professeur Veda, que nous pourrons avoir tout à l'heure en direct pour plus de détails et de précisions au sujet de ce projet unique en son genre, une grande première qui pourrait augmenter la production de bananes à travers la République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde sur certaines chaînes de télévision, lorsqu'on consulte certains magazines économiques de développement, on sait voir qu'il y a des pays qui exportent de la banane à travers de chez eux vers l'extérieur et qui vivent vraiment de la banane. Pourquoi pas ne pas aller par là? C'est des questions qu'on va aborder tout à l'heure avec nos experts, nos invités. Et vous-même, auditeurs, vous pouvez poser des questions, enrichir cette expérience, ces débats au niveau de l'échange pour voir dans quelle mesure la banane peut améliorer, n'est-ce pas, la sécurité alimentaire à travers la République démocratique du Congo. Nous revenons en studio pour joindre le professeur Veda qui est doyen de la faculté des sciences de l'université de Kisangani, initiateur de cette très très belle expérience de multiplication des bananiers par la méthode in vitro. Professeur Veda, bonjour.
Bonjour.
Félicitations d'abord pour cette révolution agronomique, si je peux me permettre. Dites-nous, l'inquiétude et les préoccupations de certains auditeurs, c'est la nôtre aussi, c'est Kamba qui vient de nous appeler de Butembo, qui constate que la méthode est intéressante, mais est-ce que le professeur ne peut pas initier des formations pour les agronomes dans tous les pays par rapport à la méthode?
Bon, je m'excuse parce que l'écoute n'est pas très bonne pour moi. Si vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît.
Oui, la question, elle est d'un auditeur qui vient de nous appeler de Butembo. Il se nomme Kamba. Il voudrait savoir si vous ne pouvez pas initier des formations de la multiplication des bananiers in vitro à l'intention des agronomes à travers toute la République démocratique du Congo.
Oui, donc effectivement, dans le cadre de mon cours d'amélioration des plantes à la faculté des sciences agronomiques, cela fait déjà quelques années que parmi les méthodes de culture de multiplication des plantes, j'initie déjà donc des agronomes pour la culture in vitro, la multiplication rapide des bananiers. Donc il serait tout à fait intéressant et de répondre à cette préoccupation dans le cadre de certain nombre de formations des agronomes qui ont déjà qui sont sur le terrain. Et pour les futurs agronomes, bien entendu, cela est courant, hein, donc nous faisons des initiations dans ce sens pour l'avenir, effectivement.
C'est presque la même préoccupation d'un auditeur de Bounia, il s'appelle Baloma Boura. Il voudrait savoir comment l'Ituri peut bénéficier de cette expérience.
Bon, Bounia, pour le moment, nous avons il y a donc l'extension du centre universitaire à Bounia, de l'université de Kisangani, et il y a également donc la faculté de sciences agronomiques à Bounia. Mais compte tenu des difficultés qui existent pour le moment, suite aux événements que nous connaissons très bien, il n'y a pas encore moyen qu'on puisse accéder à Bounia donc pour ce genre de formation. Mais dans tous les cas, les étudiants de l'extension de Bounia viennent après pour les formations à Kisangani et c'est déjà un premier pas pour pouvoir profiter de ce type de formation qui pourrait permettre justement d'augmenter les capacités dans ce sens.
Encore une préoccupation en provenance de Bounia, elle est de M. Arafa. D'habitude, réagit-il, les chercheurs donnent leur nom à leur découverte. Quel est le nom que vous, professeur Veda, avez-vous donné à votre œuvre? Est-ce qu'il s'agit de quelle banane? Makemba, Bitabe, trois peu de suspension, professeur Veda?
Oui, pour le moment, je n'ai pas de nom à donner. Hein. Donc ici, les recherches principalement que j'ai fait concernaient la mise au point des techniques de multiplication rapide, hein, dont les techniques classiques qui existent déjà, mais des techniques très performantes comme l'embryogenèse somatique. Et là, je crois que je n'ai pas de nom à donner. Les bananiers que nous avons dans notre pays sont pour la plupart connus. Donc il y a bien sûr les Matemba qui sont les plantains, il y a les Bitabe, c'est généralement les bananiers, mais sous le nom de Bitabe, nous avons beaucoup d'autres bananiers. Vous avez des bananiers desserts, hein, des bananiers à bananes desserts et des bananiers à bananes à cuire. Mais pour ce qui est des plantains, nous avons encore de nouvelles études qui doivent être menées pour prospecter de nouvelles variétés éventuellement qu'on ne connaît pas et qui doivent abonder dans la cuvette sacrale, et ça c'est l'objet d'une recherche qui va commencer d'ici le mois de janvier.
Professeur Benoît Veda Diallo, pourquoi avez-vous choisi la banane? Quelle est la particularité de la banane dans la chaîne alimentaire?
Bon, j'ai choisi la banane parce que pour la région tropicale, la banane constitue le quatrième produit alimentaire principal. Donc, on produit plus de 75 millions de tonnes de bananes dans le monde, et surtout dans les pays tropicaux, dans notre pays. Et les bananes sont faciles à produire, même pendant les saisons un peu plus sèches, on peut encore produire de la banane. Et ce serait la façon la plus facile d'augmenter la sécurité alimentaire, surtout pour ce qui concerne l'énergie, et bien entendu les vitamines, etc. Et les études ont montré que les bananes contiennent des substances qui peuvent même servir comme médicaments. Donc les études faites aux Indes, par exemple, ont montré qu'une consommation régulière de bananes peut faire baisser la tension artérielle en 10 jours chez certaines personnes, et qu'on peut conseiller les bananes, la consommation de bananes pour les personnes, n'est-ce pas, nécessitant peu d'aliments contenant peu de graisse, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages à cultiver les bananes, et surtout pour notre pays, c'est la façon la plus facile d'augmenter la sécurité alimentaire.
Professeur Veda, on a entendu tout à l'heure que vous avez déjà soumis ce projet au niveau du gouvernement en vue d'une multiplication en masse pour que ce soit étendu à travers la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour réaliser cette intention?
Oui, en fait ici, il s'agit de projet qui est soumis à collaboration avec les professeurs Mobambo de l'université de Kinshasa, faculté de sciences agronomiques. Mm-hmm. Alors donc il s'agit ici, les projets bananiers existaient à l'INERA avant, hein, donc avec tout ce qui s'est passé, donc il n'y a pas eu de suivi dans ce sens-là. Alors actuellement il s'agit donc si le projet est accepté, donc les bailleurs de fonds extérieurs pourront permettre la mise en œuvre de ces projets par des moyens donc conséquents pour la région de Kinshasa, pour nourrir Kinshasa, et pour les autres régions, bien entendu, qui ont également besoin de cet aliment.
Mais concrètement, au niveau du gouvernement, est-ce que vous avez eu quelques réponses à vos demandes? Est-ce qu'ils sont preneurs ou pas?
Oui, donc les dernières communications avec mon collègue de Kinshasa, pour voir qu'il y a déjà des avancées positives donc dans ce sens, et je pense que le dossier pourra évoluer et aboutir favorablement.
Voilà, si les professeurs de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa nous attend, nous serons vraiment très flattés, très heureux de rentrer en contact avec lui pour davantage faire le suivi aussi au niveau de Kinshasa. Et une question d'un auditeur qui vient de nous appeler de Lubumbashi, il se prénomme Chancelier, il fait remarquer qu'il y a des gens qui ont le souci d'apprendre cette technique, qu'ils peuvent apprendre cela sur Internet. Il souhaiterait que vous, professeur Veda, vous organisiez à créer un site Internet pour au moins faciliter ceux-là qui ont envie d'apprendre en mettant bien sûr les cours sur Internet. Est-ce que c'est dans vos projets?
Oui, ça serait intéressant, mais pour le moment, ce n'était pas encore dans mon projet, et je vais dire à ces auditeur de Lubumbashi que je suis en contact constamment avec
Francis Kassongo de Lumbashi qui tout le temps me pose des questions sur la culture in vitro de bananiers et je lui réponds à tout moment, je lui donne des indications pour rechercher les documentations utiles, les produits, les matériels nécessaires pour réaliser la culture in vitro. Donc ça serait une bonne idée d'arriver à cela, mais pour le moment effectivement je n'y passais pas encore. Mmh. C'est une bonne idée de sa part de suggérer cela. Et on pourrait voir ça dans les contextes de INIDAP, hein, donc les réseaux internationaux pour l'amélioration des bananes et des plantains, donc qui est une organisation internationale qui fonctionne sous la FAO. Et donc, il peut déjà voir sur le site INIDAP.org beaucoup d'informations donc, qui concernent les bananes.
Professeur Veda, est-ce que nous pouvons communiquer votre numéro de téléphone à l'intention des auditeurs qui auraient besoin de continuer à échanger avec vous?
Oui, mon numéro est le 98 60 93 15.
Voilà, vous pouvez joindre le professeur Veda Diallo sur Celtel, 98 60 93 15. La dernière question, professeur, qu'est-ce qui a financé ces recherches?
Je m'excuse, René, que...
Oui. La dernière question, s'il y a quelqu'un qui vous a appelé, moi j'ai entendu ça d'ici, qui est-ce qui a financé vos recherches?
Donc, pour le moment, les recherches que je vais commencer sur la prospection des plantes dans le bassin du Congo sera financée par INIBA, donc le réseau international pour la recherche bananier et bananier plantain. Donc c'est INIBA qui finance ces recherches.
Vous avez dit UNIPAP, est-ce que vous pouvez nous appeler ça parce que on vous attend difficilement. UNIPAP.
UNIPAP. Comme j'ai dit, UNIPAP.
Professeur Benoît Veda Diallo, je rappelle que vous êtes chercheur, vous êtes doyen de la faculté des sciences de l'université de Kisangani, que vous étiez à la tête de ce groupe de chercheurs qui ont fait la multiplication des bananiers. 15 000 pieds de bananiers ont déjà été distribués, vous les avez produits par la méthode in vitro, vous avez l'intention de l'étendre à travers les RDC avec évidemment certains de vos collègues de la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. Bravo encore une fois, félicitations. Bonne année 2005, professeur Veda.
Oui, bonne année à vous et bonne année à tous les auditeurs de votre radio. Merci
beaucoup. Merci beaucoup, professeur. On va rester dans le secteur, dans le domaine, pour voir la question telle qu'elle se pose au niveau de Kananga. En tout cas, une enquête est arrivée à la conclusion selon laquelle la population de Kananga au Kassai occidental vit dans un état d'extrême pauvreté. C'est ce qu'a déclaré le comité provincial du document des stratégies pour la réduction de la pauvreté. Ce comité a validé des enquêtes effectuées dans la ville de Kananga. Selon les conclusions de ces enquêtes, l'état d'extrême pauvreté à Kananga est dû notamment au manque quasi total d'industrie dans la province du Kassai occidental. On s'y rend tout de suite pour évoquer la question, évidemment, avec notre confrère Julien Niamoni. Julien qui est en ligne. Julien, bonjour.
Bonjour Walter, bonjour à tous.
Voilà, on le disait tout à l'heure, le comité provincial du document des stratégies pour la réduction de la pauvreté vient de valider les résultats d'une étude sur la pauvreté dans la ville de Kananga. Julien, pouvez-vous nous dire qui est-ce qui a mené ces enquêtes?
Oui, les enquêtes ont été menées par un bureau d'études dénommé Facilitas Consulting, basé à Kinshasa. Cette structure a été recrutée par le ministère du Plan du gouvernement des transitions en vue de conduire des consultations participatives dans la province du Kassai occidental. En fait, l'objectif, vous en doutez, est de répondre à la question pourquoi cet état de la pauvreté. L'objectif, bien sûr, c'est pour réduire finalement la pauvreté dans la province du Kassai occidental, comme partout ailleurs sur le territoire national.
Voilà, alors dites-nous, Julien, parce que cette enquête a été réalisée à Kananga, avez-vous obtenu des informations sur la façon dont l'enquête a été réalisée?
Oui, l'étude a été menée dans plusieurs quartiers de la ville, particulièrement dans les communes de Kananga, Nganzam, Décha et Katoka, ce sont les communes comme vous les entendez là. Les résultats sont les mêmes, aussi bien pour ceux qui habitent la commune de Kananga, je dirais un peu la Gombe de Kananga, et c'est comme ça qu'on appelle ici, pour ceux qui ne connaissent pas le chef-lieu de la province. C'est une étude qualitative et non quantitative, car selon les informations qui nous ont été données par des responsables de Facilitas Consulting, ils n'avaient pas besoin de données et chiffré. Je souligne également que ceux qui ont mené cette enquête viennent de différentes composantes. Je citerai par exemple les opérateurs économiques, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les églises et même des personnes vulnérables.
Mmh. Julien, on l'a dit aussi tout à l'heure, une des raisons évoquées de la cause de l'extrême pauvreté que vivent les populations autour de Kananga, c'est notamment l'absence presque d'industrie, etc. Mais est-ce que vous avez réussi à connaître les autres causes de l'état de pauvreté que cette maison d'études a constaté au niveau de Kananga?
Oui, ils ont constaté par exemple que l'analphabétisme, l'impraticabilité des routes, mauvaise gouvernance, manque d'électricité, manque de soins de santé primaire, je voulais dire, absence d'emploi et bien d'autres raisons. Mais je vous propose plutôt d'écouter Madame Elisabeth Kankou qui voit quand même la chose autrement.
Ici, chez nous, en Kananga, en tout cas, j'ai fait un constat. C'est que dû à la pauvreté, j'ai vu tout d'abord les hommes et les femmes se laissent entraîner par la paresse. Premièrement, et l'orgueil et l'esprit de moi d'abord, en tout cas tout cela ça poussait à la pauvreté, puisque nous devons tout d'abord exploiter notre terre. Nous avons une terre que Dieu nous a donné d'exploiter, mais nous n'avons rien fait avec cette terre. Nous voulons qu'on nous amène ceux qui viennent ailleurs. Si vraiment on exploitait cette terre, on pourra même se justifier de dire que nous avons exploité la terre, mais nous sommes toujours pauvres. Tant qu'on n'a pas exploité quand même, nous avons une part de culpabilité dans la pauvreté.
Voilà une réflexion, un autre regard de Madame Elisabeth Kankou sur les causes de la pauvreté à Kananga. Julien Amoni, on se rappelle qu'en 2003, une conférence socio-économique a été organisée à Kananga. Ça concernait, si vous voulez, une analyse de la situation de la province du Kassai occidental. Est-ce que les assises de cette conférence socio-économique ont abouti aux mêmes conclusions?
Je dirais oui. En fait, cette conférence avait pour objectif de créer le voisin moyen en vue de parvenir à un développement intégral au Kassai occidental. Lorsqu'on jette un petit regard sur la situation socio-économique de la province, on s'aperçoit que le diagnostic demeure le même. Il y a un plan de résolution pertinente issue de cette conférence socio-économique, d'autant plus qu'elle couvre l'ensemble du territoire et tous les domaines de la vie pour redresser donc la barre, donc la situation socio-économique, si vous voulez. Cependant, il faut noter que les résolutions seules ne suffisent pas. Encore faut-il mobiliser moyens, mieux des ressources financières indispensables pour concrétiser le vœu exprimé dans ces documents des résolutions, ce qui en fait pose encore des problèmes, du moins pour l'instant.
Mais vous dites que ça pose encore problème pour l'instant, donc on peut dire pléthore des résolutions, des bonnes intentions. N'y a-t-il pas quelques projets de développement dans la périphérie de la ville de Kananga, Julien Nyamoni?
Oui, Walter, je dois vous dire qu'il existe beaucoup d'ONG de développement qui travaillent sur le terrain. Plusieurs projets sont financés, mais on s'aperçoit que cela ne décolle pas facilement. lors de la validation des résultats de cette enquête, j'ai rencontré quelqu'un, et vous allez l'entendre, qui me disait qu'il se posait un problème matériel, un matériel aratoire, comme on dit d'habitude dans les ONG. Il s'agit de M. Kankou Kachama, qui est un cadre de la territoriale. Je vous propose de l'écouter.
La pauvreté dans notre ville est due au manque des usines, par exemple. Il n'y a pas d'usine à Kananga, et il n'y a pas d'activité, il n'y a pas... faudrait que, qu'on nous donne l'occasion de faire les champs, qu'on cherche les outils pour que les gens fassent leur champ, puisqu'à ce moment-là, on aura beaucoup de revenus, on aura beaucoup de maïs. Au lieu d'aller chercher le maïs ailleurs, nous aurons sur place de maïs. Nous aurons beaucoup de manioc, nous aurons beaucoup de riz, beaucoup d'haricots, ainsi de suite.
Mais qui va vous amener ça?
Nous demandons actuellement que les partenaires nous aident, puisque l'État, on a tenté, ça ne semble pas tourner. Alors si les partenaires, si les ONGD nous envoyaient ça, et puis ça va nous aider à faciliter cette production.
Kankou Kachama, cadre de la territoriale au Kassai occidental, précisément dans le chef-lieu de la province. Julien Nyamoni, quelle est l'activité principale, si vous voulez, de la ville de Kananga? Parce que nous parlons de la pauvreté, il faut réduire la pauvreté. À partir de quelle activité les Kanangais peuvent, si vous voulez, s'accrocher, s'arc-bouter, comme on dirait, pour dire que ça sera, si vous voulez, le fer d'élance de la reprise de l'économie à Kananga et une image, si vous voulez, de la relance économique.
Oui, écoutez Walter, pour mieux vivre ici, je pense que beaucoup de gens sont tournés essentiellement vers une activité commerciale. Et donc, je dirais, il existe une activité commerciale assez importante tournée vers l'informel. C'est le petit commerce. Kananga demeure en fait une ville administrative. Vous savez, pour la petite histoire de notre pays, Kananga serait la capitale du pays et donc l'administration est bien assise ici. Il y a trop de fonctionnaires. Et ce qui donne l'impression qu'il n'y a pas d'autres activités, c'est seulement lorsque vous passez dans le quartier commercial qu'on appelle ici Macar ou la Louloua ou un peu plus du côté, je dirais, ouest de la ville, un quartier dénommé Batetela, il y a une activité assez importante de commerce, mais pour le reste, il faut vous dire que c'est une ville plein de fonctionnaires. L'existence d'ailleurs des écoles, de nombreuses écoles en témoignent, ce qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose en soi.
Par rapport à la petite histoire, rappelons aux auditeurs que Kananga, c'est la ville qui s'appelait Louloibourg. On est d'accord, Julien?
Tout à fait, vous avez raison.
Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va retrouver dans quelques instants notre invité pour commenter davantage cette étude sur l'état de pauvreté à Kananga. Ça sera M. Jean-Claude Toubadi, directeur de Facilitas Consulting. Julien Nyamoni, je profite pour vous dire tous mes voeux les meilleurs pour bonne année 2005.
À vous également et à toute votre famille et surtout à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment précis.
Merci beaucoup, Profikiet. Des pistes, des solutions pour remonter la pente de la pauvreté à Kananga. Et pour en parler, c'est avec Jean-Claude Toubadi. Monsieur Jean-Claude Toubadi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Moi, je suis Walter Moulondi. Vous êtes directeur de Facilitas Consulting. Vous avez mené cette étude sur l'état de la pauvreté à Kananga. On en a entendu les causes. Selon vous qui avez mené l'étude, comment est-ce qu'on peut lutter contre ou réduire, si vous voulez, la pauvreté à Kananga?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Réduire la pauvreté à Kananga est un défi qu'il faut relever. En effet, la pauvreté n'étant pas un problème sectoriel, encore moins un phénomène à négliger, il faudra nécessairement l'implication de toutes les couches sociales de la ville de Kananga. Ce n'est pas seulement une affaire de l'État. La société civile, les ONG, la population elle-même doit s'impliquer aussi pour que finalement la pauvreté soit réduite dans la ville de Kananga.
Lorsqu'on parle de réduction de pauvreté, on cible un certain nombre d'activités, si vous voulez, fédératrices, qui peuvent entraîner d'autres activités. Et quelles sont les activités que vous pouvez cibler au niveau de Kananga qui vont faire un effet d'entraînement de réduction de pauvreté?
C'est comme je l'avais dit avant-hier dans notre intervention lors de la validation des résultats de l'atelier urbain. Parce qu'à cette étape-là, il nous fallait, ensemble avec les différentes couches sociales de la ville de Kananga, faire la restitution et enrichir davantage avant de valider les résultats qui ont été obtenus par notre équipe MARP lors des consultations participatives. Alors, nous avons dégagé un certain nombre de problèmes dans les différents secteurs de la vie nationale. Et pour la ville de Kananga, nous avons surtout insisté sur l'inaccessibilité de la grande majorité de la population à l'électricité. Et nous sommes convaincus que si on tient à réduire la pauvreté dans la ville de Kananga, il faut d'abord commencer par résoudre le problème de l'électricité. C'est à ce niveau-là que nous avons proposé comme activité que les autorités nationales et provinciales puissent accélérer et finaliser dans un bref délai la construction de la centrale hydroélectrique de Katende, parce qu'elle permettra à ce que la ville soit électrifiée, et à partir de l'électricité, je pense que les autres services sociaux de base seront disponibles, notamment l'eau potable, la création des industries, le chômage sera réduit, ainsi de suite.
Mais vous parlez de la création des industries à la suite de l'électricité qui pourrait être rétablie. Quel genre d'industrie pourrait être développée à Kananga notamment?
S'il vous plaît.
C'est quel type d'industrie qui pourrait être développée à Kananga si jamais il y a l'électricité qui est remise?
Bon, merci beaucoup. S'il y a l'électricité disponible, je pense que d'abord il y aura les types d'industrie, c'est d'abord la cimenterie. Vous savez qu'à Kananga il n'y a pas d'habitat décent. Et d'ailleurs avec l'arrivée des refoulés du Katanga, que Kananga s'est réveillé un peu, parce que avec l'arrivée de ces Kassaïens qui ont été refoulés au Katanga, il y a eu quand même un essor sur le plan habitat.
Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est
même des nouvelles constructions? Il y a quand même un certain degré d'éveil au niveau de la ville.
Mais vous dites,
je pense que, or sur place ici, pour construire, il faut que les ciments viennent de Kinshasa ou d'ailleurs.
Mais c'est
déjà un problème.
Monsieur Jean-Claude Toubadi, c'est ces compatriotes qui sont venus du Katanga, qui sont rentrés à Kananga, ils avaient des initiatives. Est-ce que c'est pas un manque d'initiatives locales, même au niveau de Kananga? Comment comprendre qu'il y a des gens qui viennent de Lubumbashi lorsqu'ils arrivent à Kananga et ils boostent un certain nombre d'activités? Est-ce qu'il n'y a pas un problème inhérent au niveau de Kananga?
Effectivement, il y a un problème. Je pense que il y a une dame qui est intervenue sur vos antennes juste pendant cet atelier de validation pour dire que à Kananga, la paresse bat son plein ici. Les gens sont paresseux, ils n'ont pas l'esprit de créativité, il n'y a pas d'initiative privée tellement. On a toujours tendance, j'ai comme l'impression qu'à Kananga, les gens réfléchissent encore, qu'ils croient que nous sommes encore à l'étape de l'État-providence, où l'État doit tout faire pour la population. Je pense qu'il faut un grand effort dans le sens de la mobilisation, de la conscientisation, de l'éveil, pour que la ville soit rebâtie.
Monsieur Jean-Claude Toubadi, je rappelle que vous êtes directeur de Facilitas Consulting. Je vous remercie d'être intervenu sur nos antennes.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Lorsqu'il vous vient l'envie de découvrir des merveilles de la nature à travers la République démocratique du Congo, vous n'avez pas besoin de vous tourner la tête pour chercher à savoir où vous pouvez vous diriger. À quelques kilomètres, à des marches de pied, vous pouvez trouver le coin du paradis que vous voulez admirer. Si vous prenez par exemple la route Kinshasa-Océan vers l'océan Atlantique, qu'on dit souvent la route du Bas-Congo, à 120 km au sud-est de Kinshasa, dans le territoire de Madimba, district de la Lukaya, vous allez tomber dans un jardin, j'allais dire d'Éden, le jardin botanique de Kisantu. L'accès au jardin botanique de Kisantu se fait par la nationale numéro 1 jusqu'à Kisantu, effectivement, la localité qui porte le nom, en direction vers Matadi. Ce jardin a été créé en 1900 par le frère Justin Gillet de la Compagnie de Jésus. Le jardin botanique de Kisantu s'étend sur 225 hectares, dont 55 aménagés en bordure de la rivière Inkissi. Alors, dans ce jardin, vous trouverez des coins de forêt où des arbres géants s'habillent, des lianes grimpantes, où des arbres géants ombragent, des frêles plantes trop sensibles au soleil et beaucoup d'autres merveilles de la nature. De par sa richesse floristique, étonnamment diversifiée, le jardin botanique de Kisantu est un site de première importance pour l'Afrique centrale et particulièrement pour la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui y vont et quand ils en rentrent, ils veulent aussitôt y retourner. Mais voilà, quand on arrive à la fin de la visite, on a envie d'y rester. Et il y a des gens, deux personnes de l'équipe de Okapi Action qui ont vécu ces sentiments, cette intention de rester éternellement dans ce jardin. Parmi ces personnes, Jolie Malivoto qui est avec nous en studio. Jolie Malivoto, bonjour.
Bonjour Adi.
Alors, la première question que je vous pose, vous avez observé ce jardin. Quelle impression ça vous a fait d'abord, comme ça?
Oui, la première impression est que le jardin botanique est constitué d'une collection des plantes regroupées selon les espèces. Dans Pergola, par exemple, Pergola, c'est un nom scientifique. Pergola veut dire c'est un endroit où on met des plantes d'ombrage qui ne supportent pas assez de lumière. Il y a aussi la serre dans laquelle on adapte des différentes plantes pour le clonage, par exemple. Il y a Arboretum, on fait une collection des plantes, surtout on fait la collection des différents bois qu'on exploite ici en RDC. Et dans Palmetto, on regroupe les différents palmiers locaux et importés.
Alors, ce jardin botanique a été créé en 1900 par le frère Justin Gillet, mais d'où est-ce que lui est-il venu l'idée de constituer un jardin botanique?
Oui, ce qu'il faut savoir, Walter, est que le jardin a commencé tout d'abord comme un jardin d'essai en 1900. Et le frère Justin Gillet l'avait conçu dans l'idée d'en faire un potager au coin de la mission, un potager où on pouvait planter des légumes, des tomates et consorts. Et peu après, il a commencé à acclimater les plantes et les arbres jusqu'à agrandir son œuvre. Et en 1943, quand il meurt, son successeur, le père Callas, un autre jésuite, botaniste et agronome, poursuit son œuvre, il met de l'ordre dans le potager et lui donne le nom du jardin botanique de Kisantu. Voilà un peu comment ce petit potager est devenu aujourd'hui jardin botanique de Kisantu avec 225 hectares de grandeur.
Mais voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un site merveilleusement magnifique. Il a été créé par des prêtres jésuites. Est-ce que aujourd'hui, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous dire si oui ou non, ce sont toujours les jésuites qui gèrent ce jardin botanique de Kisantu?
Au début, il était géré par les jésuites, mais depuis 1973, il est devenu un jardin public. Il est maintenant en charge de l'État congolais, plus particulièrement de l'Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo.
Dites-nous, quelqu'un qui visite pour la première fois le jardin botanique de Kisantu, est-ce que c'était votre cas d'abord? Je lis la dernière fois.
Oui, effectivement.
Voilà, alors vous allez bien répondre à cette question. Pour quelqu'un qui visite pour la première fois le jardin botanique de Kisantu, quelles sont dans ce jardin justement les espèces rares qui peuvent l'impressionner?
Oui, depuis que le jardin a été déclaré en 1973 comme le site touristique, ce jardin regorge beaucoup d'endroits touristiques s'il faut cette répétition. Il y a par exemple une bibliothèque, un restaurant-bar qui fonctionne tous les jours. Le visiteur a également à sa disposition des aires pique-nique, des paillotes et des bancs de repos, des jeux pour les enfants, un mini-zoo. Il y a aussi des arbres aux bois utiles, des feuilles monumentales, des fruits comestibles, les bois pour la menuiserie, des herbes, les pâturages. Dans ces jardins, il y a aussi, Walter, le mangoustanier. Je ne sais pas si tu connais le fruit.
Oui, il est très bon ce fruit.
Il y a même le mangoustanier, donc ils sont possèdent le verger le plus vieux de l'Afrique. Tellement que la liste est longue, je propose que notre guide poursuit avec la liste.
La description du site.
C'est quoi? Et alors, nini au CP Namo, nini dans le jardin de Moussambo.
Mandek.
Vraiment, je viens d'arriver tout de suite. Hein? Bon, je vais. C'est le bambou, je crois. Et après. Il y a un boa ici, bon, je n'ai pas encore visité, c'est ça.
J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Comme c'est à la veille de la fête, je suis venue avec les enfants pour me distraire un tout petit peu, c'était vraiment intéressant. Bon, j'ai vu les serpents, les crocodiles, puis surtout les restaurants, j'ai bien mangé, c'est tout. Okay. On a visité la partie purement zoologique. On a vu les crocodiles, les oiseaux, les singes hein, et les autres. Et seulement les crocodiles, parce que dans la cité, on ne les voit même pas. Si simplement on vient ici, là, on a l'occasion de voir les crocodiles. Les enfants aussi sont très contents de voir les crocodiles.
La maman grande. La maman grande. La maman grande. La maman grande.
Voilà, difficile de résister à la description d'un enfant. C'était plutôt des impressions de quelques visiteurs que Jolie Malivoto a rencontré au jardin botanique de Kisantu. Je vous propose d'écouter quelques précisions sur la description du jardin.
Nous avons Ficus bengalensis, banyan ou l'arbre qui marche. C'est parmi les premières introductions de Frère Justin Gilet vers 1908. C'est vraiment un arbre mythique qui marche réellement. C'est la racine, en fait, adventive qui sort et qui se fixe dans le sol et devient un pied, ainsi de suite. Alors, pour que ça ne puisse pas se déplacer, nous prenons soin de tailler à tout moment pour qu'il ne puisse pas faire pousser sa racine en bas. Nous avons la plante à fruits miracle. C'est une plante vraiment à fruits miracle, car le fruit qui, en maturité, vire à rouge, quand vous mangez, 12 heures après d'avoir mangé, tout ce que vous allez consommer deviendra sucré. Nous avons l'arbre de bonheur qui intéresse tant les visiteurs. L'arbre qui a vraiment marqué l'histoire contemporaine, c'est en fait le cannelier qui a fait bouger l'Europe et les Européens cherchaient la route des Indes à cause de cette plante. Alors c'est une plante qui, les Écossais ont le vertu de jouer sur la laine et ça donne un bon parfum dans la bouche et la fraîcheur. Si bien que les jeunes gens, les élèves, venaient au jardin à la recherche de ces écorces, c'est pour rendre leur bouche fraîche et un bon odeur. Nous avons le musée qui regroupe un peu l'historique du jardin et les différents spécimens qu'on trouve. Nous avons herbarium où nous gardons les différents spécimens même qui datent du 1800. Et nous avons une grotte qui est en fait un monument laissé par le fondateur du jardin, qui est le frère Justin Gilet. Nous avons les différentes sortes d'orchidées exotiques et congolaises. Nous avons aussi la coco de mer ou coco face et tant d'autres.
Et voilà, on vient d'entendre le botaniste François Matala qui vient de nous donner plus de précisions sur les différentes variétés qu'il y a dans le jardin botanique de Kisantu. Il a parlé d'espèces exotiques et d'autres espèces congolaises. Alors, Jolie Malivoto, peut-être une précision. Comment est-ce que on est arrivé à avoir des espèces exotiques, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, et des espèces congolaises?
Oui, ce qu'il faut savoir, Walter, est que dans ce jardin, il y a ce qu'on appelle échange culturel. Mm-hmm. Je veux dire par là que le jardin de Kisantu a pu importer différentes plantes venues de quatre coins du monde. Il y a aussi des représentations des plantes de toutes les forêts de la RDC. Et ce qui a permis aujourd'hui que le jardin de Kisantu a plus de 3500 espèces végétales locales et d'introduction, c'est-à-dire les espèces venues de partout dans le monde.
Le jardin botanique est ouvert au public pour les visites. On en a entendu un groupe, une famille avec des enfants qui ont vu l'ingando. Enfin, j'essaie d'imiter la voix du petit gamin. Et il a vu le crocodile et tout le reste. C'est comment, quelle est la fréquence des visites au jardin botanique de Kisantu parce que vous avez rencontré certains responsables sur place?
Oui, selon le chef du service de l'accueil, selon lui, il dit que le jardin reçoit une centaine en moyenne par semaine. Le plus souvent, les visiteurs abondent le jardin pendant des saisons touristiques, c'est-à-dire la période de fruits, par exemple. C'est la période à partir de novembre au mois de mars.
La période actuelle.
Oui, la période actuelle. Ouais. Également à partir de mai, pendant la saison des légumes et la saison des vacances.
Voilà, on a entendu quelques visiteurs nous parler tout à l'heure. Une dernière question. Jolie. Quelles sont les heures de visite dans le jardin botanique de Kisantu?
Le jardin est ouvert au public tous les jours et tout le monde a accès. Je vous propose d'ailleurs de suivre les détails avec Diane et les hôtesses dans ce jardin.
Bon, c'est tous les jours. Donc, du lundi au dimanche, ouais. De 7h30 à 17h.
Ils sont autorisés à entrer.
C'est tout le monde, hein, c'est tout le monde, les enfants, les parents, les visiteurs de toutes sortes. Ils peuvent venir ici, oui, oui, pique-niquer, une visite guidée, tout et tout.
Et pour, quels sont les tarifs pour les différentes catégories?
Pour les tarifs, nous avons là-bas pour les adultes, c'est 300 francs, les enfants, c'est 50 francs, les étudiants, 100 francs, véhicule, 200 francs, appareil photo, 750, caméra, 1500. Pique-nique 7000, visite guidée 1500. La moto c'est 100 francs, le vélo est 50 francs.
Pour combien d'heures?
Bon, il n'y a pas de date fixe, seulement que la visite commence à 7h30 jusqu'à 17h.
Mademoiselle Diane, préposée à l'accueil au jardin botanique de Kisantu, Jolie Malivoto, vous êtes partie de Kinshasa un matin pour arriver à Kisantu après combien d'heures de route? En voiture?
Oui, nous avons quitté Kinshasa à 9h et arrivé à Kisantu, disons, vers 11h. C'est-à-dire, on a fait 2h.
2 heures de route.
Aller-retour, 4h.
Ben oui, enfin, 2 heures pour aller, 2 heures pour rentrer, pour savoir... enfin, on pourrait poser la question au chauffeur, Donna, il roulait à quelle vitesse pour essayer d'évaluer. Mais bon, la route est bonne, il n'y a pas de problème.
Surtout ça.
La route est praticable.
Très bonne.
Elle est très bonne. Voilà, vous avez besoin de vous évader quelque part à Kinshasa. Prenez la route Kinshasa vers Matadi. Vous vous arrêtez seulement à Kisantu. Vous allez rencontrer et observer tous ces merveilles. On aura un peu plus de détails d'ailleurs tout à l'heure avec Monsieur Kibungo Kembelo, directeur actuel du jardin botanique de Kisantu. Jolie Malivoto, bonana. Hein.
Merci Walter, à
2005. Au revoir.
Au revoir.
Merci. Découverte non-stop du jardin botanique de Kisantu en direct de Kisantu, monsieur le directeur du jardin botanique, Kibungo Kembelo, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Ouh là là, quelle belle voix, une voix pleine de chaleur et de joie. Est-ce que c'est l'effet de la beauté du site du jardin botanique?
Mais bien sûr.
Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des visiteurs maintenant au jardin botanique de Kisantu? Il est 10h25.
Oui, il y a des visiteurs. Très tôt matin, il y a des visiteurs qui sont entrés, effectivement. Et puis c'est une très très belle journée.
Quel temps il fait dans le jardin?
Oui, bien sûr.
Ah, d'accord. Monsieur Kibungo Kembelo, on constate, d'ailleurs vous venez de le confirmer, il y a des visiteurs qui sont arrivés là-bas ce matin, il y en a qui viennent. Vous en recevez combien par semaine?
Oui, par semaine ces derniers temps, mais à peu près un millier de touristes. Hein?
Un millier.
À peu près, parce que vraiment, ils arrivent, surtout avec la réhabilitation de la nation numéro 1. Mm-hmm. Et puis ensuite, l'opération qui est déclenchée par le gouverneur de province, ce qui fait que vraiment, les touristes arrivent. Hein? Surtout des blancs, beaucoup de blancs qui arrivent.
Alors, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous offrez aux touristes qui viennent au jardin botanique de Kisantu?
Bien sûr, maintenant, c'est la très bonne saison avec les mangoustans, les poilus, les pommes roses, les mangues, vraiment tout, le safou. Ce qui fait que les touristes, ils sont vraiment gâtés. En dehors des fleurs, bien sûr, hein, qu'ils peuvent trouver à gogo.
Mm-hmm. Et comment s'organise la visite, les visites guidées? Comment ça se fait? Vous commencez généralement par quelle attraction?
Oui, en principe, lorsque le visiteur arrive et qu'il a besoin d'être guidé, eh bien, dès qu'il arrive, arrive, on commence par lui montrer les plans du jardin, et puis par la suite, bien sûr, je lui montre toutes les curiosités que regorge le jardin botanique de Kisantu. Alors, bien sûr, la visite a pu facilement prendre 1h30, 2 heures, ça dépend de la force du visiteur.
Qu'est-ce que ça coûte de bénéficier des services d'un guide à travers le jardin botanique de Kisantu?
Oui, pas grand-chose, hein. Donc par groupe, c'est 1500 francs, tout simplement. Un groupe de 20 à 25 personnes, on peut les guider pour 1500 francs.
Monsieur le directeur, s'il vous était demandé de faire la carte postale du jardin botanique de Kisantu, est-ce que ce jardin est toujours aussi magnifique tel qu'il était au beau vieux temps, quand il a connu son apogée, où il y a eu quelques problèmes quand même qui font que, quelque part, ça ternit un peu de son éclat?
Oui, bien sûr, hein, bien sûr. C'est vrai que bon, il y a eu l'apogée vers les années, disons, 50, parce que là, on a eu des grands prix. Et puis ensuite, ça a continué pratiquement jusqu'en 60. Et puis après 60, ça a un peu continué parce que les jésuites ont continué à s'occuper du jardin. À l'époque, ce jardin n'avait que 5 hectares. Alors, à partir de 1975, l'État congolais a repris les choses en main. Bon, alors, bon, le calvaire a commencé parce que la subvention ne suivait plus. C'est ce qui fait que vraiment on a souffert et entre temps, on avait augmenté la superficie du jardin qui est passée de 5 hectares à 225 hectares. Mais heureusement également aussi, vers les années 72, avec l'État congolais, la présidente de la République, on avait construit l'hôtel, et que j'ai dit, le restaurant bar, qui avait à l'époque une capacité au moins de 200 personnes affilées, avec, disons, le froid et le chaud, vraiment une bonne chaîne là-bas, exactement comme une chaîne de froid et de chaud, comme ce qu'il y avait dans les bateaux présidentiels que Mobutu utilisait à l'époque. Donc, c'est vous dire que c'était vraiment la bonne époque. Mais alors, à partir, bien sûr, de 75, avec la diminution de subventions, il n'y avait pratiquement plus rien, et bien le jardin commence à se dégrader, de perdre un peu de sa valeur. Et un peu ensuite, on a remonté la pente, parce qu'avec la création de l'Institut du jardin de l'Ouest du Congo et le ministère de l'Environnement, bien sûr, on a repris quand même du poil de la bête. Et jusqu'en 91, vient bien sûr la grande foire, le grand pillage et tout ça, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, pratiquement, à peu près jusqu'en 99, nous sommes restés pratiquement abandonnés. Ce qui fait que, bon, le jardin botanique, il y a un véhicule qui passe, les touristes.
Hein? Oui, je vous en prie. Oui,
bien sûr, on les attend. Le jardin botanique.
Oui.
Alors, c'est à partir de ce moment, bien sûr, à partir de 91 plutôt, avec le pillage, presque partout ce phénomène, eh bien, ça fait que vraiment le jardin a été affecté. C'est vrai que le jardin n'a pas été pillé, hein? Parce que lorsque les militaires sont arrivés ici, je me rappelle à l'époque, nous avions beaucoup de bouteilles de whisky, les restaurants fonctionnaient à plein rendement, et bien, grâce à la boisson, au whisky, tout ça, les militaires, tout ce qu'ils ont fait, c'est de boire toute la nuit, et ils ont oublié de nous piller. Et depuis là, ils ne sont plus rentrés nous piller. Bon, par la suite, ça a continué, bien sûr. Même quand la vedette est arrivée, eh bien, il y a un groupe de soldats qui a habité ici, pratiquement pendant au moins 2 ans, ce qui fait que le jardin était devenu un dépotoir. On avait des excréments partout. Vraiment, c'était difficile. Il a fallu l'intervention du gouverneur pour que ces militaires débarrassent le jardin botanique. Et à l'époque, bon, c'était difficile pour nous de venir travailler parce que, bon, ces jeunes gens, bon, qui maniaient à peine les grenades et tout ça, il y en avait parfois qui se perdaient à travers le jardin. C'est comme ça qu'on évitait que les travailleurs viennent travailler parce que sinon ils essaient de marcher dessus. Bon, par la suite, dès qu'ils sont sortis, eh bien nous, on a repris également le boulot. Et jusque-là, on était pratiquement impayés, on ne suivait pas. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à la bonne volonté, eh bien vraiment nous avons pu tenir et sauvegarder le jardin malgré la conjoncture économique difficile. Donc on l'a maintenu et nous avons tout fait pour qu'en l'an 2000, nous puissions fêter ce que nous avons appelé le premier centenaire du jardin.
Ouais, ouais.
Parce que nous voulions nous ouvrir au monde, dire au monde que non, le jardin botanique, malgré les difficultés, il est toujours là. Et pour le moment, d'ailleurs, c'est le jardin botanique qui s'entoure, c'est le premier jardin botanique, disons, d'Afrique, qui doit pouvoir l'affirmer actuellement, avec tout ce qu'il a comme beauté et richesse. Et quand nous allons dans les autres jardins botaniques en Afrique, vraiment, ils sont émerveillés quand ils voient les images. Parce que pour nous, le grand problème, c'est que nous n'arrivons pas. On n'a pas d'internet, on ne sait pas, on n'a pas de spot publicitaire. Ce qui fait que nous faisons difficilement connaître. Mais les gens qui arrivent ici, vraiment, des autres jardins botaniques, ils sont émerveillés. Ils disent, mais comment vous arrivez à tenir avec le peu de moyens dont vous disposez? Je dis, mais voilà, ça, c'est vraiment le Congolais. Le Congolais, avec peu de moyens, il peut faire des grandes choses. Mais malheureusement, il n'a pas suffisamment d'appui de la part de... Vous voyez les autres jardins botaniques, par exemple, ceux disons, des anciennes colonies anglaises. Ces gens-là ont continué à bénéficier des appuis financiers anglais. jusqu'à maintenant d'ailleurs, ce qui fait que ces jardins sont restés pratiquement intacts avec beaucoup de moyens. Mais quand on regarde, ils ont une superficie à peine de 10, 20, 30, 50 hectares. Mais par contre, nous avec 225 hectares, eh bien, les prisons, les bœufs sont partis, ils nous abandonnent nous-mêmes, et nous avons continué à tenir.
Monsieur Kibungo Kiembelo, j'ai entre mes mains un dépliant qui a été fait sur le jardin botanique de Kisantu, avec l'appui de l'UNESCO, des Procultures, de l'Union européenne, du MAB, etc. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas, effectivement, tout ceci sur Internet? Parce qu'il y a des très belles images, je vois le mangoustanier, je vois une pépinière, je vois des belles choses là sur ce dépliant.
Oui, justement, c'est à peine, heureusement que nous avons lutté pour nous faire entendre auprès de l'UNESCO et auprès de l'Union Européenne. On a lutté pendant 2 ans, 3 ans, et c'est maintenant à peine que finalement notre appel a été entendu, et que dès cette année, effectivement, commence ce que nous appelons la réhabilitation du jardin de Kisantu, avec toutes les infrastructures, les collections scientifiques, et l'éducation environnementale, parce que vraiment, nous sommes en retard au Congo en ce qui concerne l'éducation environnementale.
Mais déjà, c'est ce qu'on est en train de faire, en vous recevant dans cette émission, monsieur le directeur.
Oui.
Je vous propose une question d'un auditeur qui s'appelle Ngiola Sissi. Il vient de nous appeler de Kinshasa tout à l'heure. Voici sa réaction. En parlant du jardin botanique, on suppose, écrit Ngiola, trouver que des plantes, des arbres, mais pourquoi il y a une partie zoologique? Ngiola pose la question, n'est-il pas un danger pour les plantes?
Non, pas du tout. En fait, on a quelques petits animaux, c'est uniquement pour essayer de distraire un peu. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que dans le jardin botanique, il y a quelques animaux. Il y a des timbriquets, des zolacodes, il y a des pitons, il y a des serpents, comme vous pouvez le voir, il y a même des antilopes des marais. Donc il y a pratiquement un peu de tout, même des petits singes. Hein. Mais quand même, compte tenu du fait que la province du Bas-Congo est du point de vue faune vraiment très très appauvrie, parce qu'on déboise, c'est du fait qu'il n'y a pratiquement plus rien. Même les rats, à la longue, je pense qu'on veut les mettre en cage pour que les enfants puissent les observer. C'est ça les grands problèmes, justement. Donc, c'est quelques animaux. C'est uniquement pour attirer un peu la curiosité de nos jeunes enfants. C'est dans un but purement éducationnel. Mais sinon, on n'a pas envie de remplir le jardin de paddock pour nous. Non, nous voulons vraiment pas. Déjà, avec le jardin, on a suffisamment de problèmes. Alors, on ne va pas en commun avec des problèmes. Nous avons même un programme de bonobos que nous venons d'abandonner parce que, ce serait encore nous ajouter beaucoup de souffrance. Donc, nous voulons d'abord réhabiliter ce qui existe et nous verrons plus tard, parce que nous avons beaucoup de projets du point de vue, casernement des visiteurs qui arrivent, parce que nous, les visiteurs préfèrent rester dans les jardins au lieu simplement de faire, une visite de vision, ce qui n'est pas intéressant, voilà. Donc, nous pensons à un centre d'éducation environnementale et en plus à une espèce de motel où les gens peuvent rester pour essayer d'admirer les plantes.
Surtout voilà. Au coucher, au lever du soleil, ça peut être magnifique. Mais monsieur Kimungo Kembelo, il y avait l'histoire d'un couple de crocodiles très âgés à Kisantu. Qu'en est-il?
Oui, le crocodile, il est toujours là. Il est. Oh, mais c'est un jeune homme, il a à peine 23, 24 ans. Mais il prend du poids, hein. Et d'ailleurs, c'est le seul que les gens viennent voir parce que tellement on a parlé la légende du crocodile de Louvrosi et les gens ne le connaissent pas et ils viennent le voir ici justement, c'est le crocodile de Louvrosi, c'est le même que celui qu'il y a ici. Il a été pêché dans la rivière Inkissi. Et je voudrais vous dire que à un moment où nous parlons, avec les inondations qu'il y a chez nous, parce qu'il y a moins une bonne partie du jardin qui est maintenant sous eau. Avec les inondations, bien sûr. Hein. Donc, il y a une bonne partie, un peu plus de tiers sous eau, là. Ce qui fait que les crocodiles ont quitté pratiquement la rivière Inkissi. Et ils rôdent dans le parage, et nous devons faire attention.
Voilà. Ça va être la dernière question. Je sens de l'ambiance autour de vous, monsieur le directeur. Je voudrais me transporter pour me retrouver maintenant avec vous, à côté de vous, dans ce cadre magnifique. Moi, je dis jardin d'Éden, jardin botanique de Kisantu. La dernière question, c'est d'un auditeur qui s'appelle Bobo Kakiese. Il voudrait savoir que fait concrètement l'État congolais pour appuyer le jardin botanique de Kisantu.
Non, pour le moment, sérieusement, l'État congolais, à part la sécurité, parce que la sécurité, c'est vraiment important, la sécurité qui nous assure, en dehors de ça, rien. En dehors de ça, vraiment rien. Mais la sécurité, on nous l'assure, c'est ce qui est déjà une très bonne chose. En attendant, n'est-ce pas, disons qu'on développe des programmes, de réhabilitation, peut-être avec l'appui du gouvernement également, pourquoi pas. Mais pour le moment, je crois qu'on a d'autres chats à fouetter, bon.
En tout cas, maman, c'est la sécurité qu'on nous assure. Et je crois que c'est vraiment très important pour nous.
Quelle est la hauteur des recettes que vous faites au jardin botanique de Kisantu, parce que c'est la bonne saison actuellement?
Pardon, je n'ai pas bien compris.
Quelle est la hauteur des recettes réalisées par le jardin botanique de Kisantu, par exemple, par mois?
En principe, en moyenne, la moyenne mensuelle, on atteint facilement entre, disons, à peu près entre 1 200 $ et 1 200 à 1 500 $, facilement.
Ok.
La moyenne mensuelle.
Mais voilà,
Vraiment, donc, si les visiteurs arrivent, qu'on nous achète des histoires, parce que nous, comme source de recettes, nous avons bien sûr le tourisme avec les entrées et les restaurants bas, et puis ensuite la vente du matériel végétal. Vous comprenez que pour le moment, par exemple, avec l'agriculture, les gens commencent à faire l'agriculture. Et nous sommes très sollicités avec nos plantules, et également avec les plantules d'agroforesterie. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, nous cultivons les plantes d'autres décennies, les plantes mellifères, ce qui fait que les gens préfèrent avoir ça pour essayer de commencer chez eux de ferme, hein, pour s'assurer, disons, une vie de vieillesse meilleure.
Voilà.
Ce qui fait que nous sommes vraiment très sollicités pour le moment avec les matériaux végétales. Et ça nous attire également un peu plus d'argent.
Bonne chance, monsieur Kibungo Kembelo. Je rappelle que vous êtes directeur du jardin botanique de Kisantu. On a senti dans votre voix, vous pétez la bonne humeur, comme on dit. Ça donne envie à tous ceux qui nous suivent dans le monde actuellement, parce qu'on est en direct sur Internet, donc ils vous ont entendu de partout, du monde entier. Ils voudront venir là-bas lorsqu'ils arriveront à Kinshasa. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, de bonne année et de redonner cette joie de vivre dans la nature à tous les visiteurs qui viennent à Kisantu.
Ok, merci beaucoup.
Merci, au revoir. On reste sur la route du jardin botanique de Kisantu. En fait, nous quittons le jardin botanique de Kisantu, mais on reste dans la cité de Kisantu pour faire ce constat que la nationale Kinshasa Matadi est l'une des principales voies routières où l'on enregistre pas mal d'accidents de circulation. Dans les tronçons allant de Madimba à Inkissi, la plupart d'accidentés sont souvent acheminés à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu pour recevoir les premiers soins. Cet hôpital dépend du diocèse de Kisantu et c'est parmi les plus grandes structures médicales que compte le district de la Lukaya dans la province du Bas-Congo. L'équipe de Okapi Action qui s'est rendue au jardin botanique de Kisantu, qu'on vient de redécouvrir avec le directeur, un monsieur assez jovial, est partie aussi visiter les malades dans cet hôpital, occasion aussi de voir la situation qui s'y passe. Et parmi cette équipe, il y avait Marcel Gombo. Marcel, bonjour.
Bonjour, Walter.
Alors, vendredi, 24 décembre, vous êtes entré dans cet hôpital. Peut-on savoir comment les malades sont pris en charge quand ils arrivent dans cet hôpital, notamment en urgence et surtout les accidentés?
Walter, dans toute grande institution médicale digne de ce nom, le service des urgences est l'un des plus importants, car c'est bien là que sont reçus le malade dont l'état de santé exige des soins prioritaires. À l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, qui soi-disant Walter est d'une propriété remarquable, le malade qui arrive en urgence bénéficie de manière générale d'une bonne prise en charge. Sauver la vie du patient passe souvent avant toute autre chose. Malheureusement, Walter, un constat amer, certains abus de confiance de la part de malades reçus en urgence, notamment les accidentés de route, font que le personnel médical soit de plus en plus réticent à assurer un bon suivi médical à ces malades.
Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a un abus de confiance de la part des malades accidentés?
Walter, en principe, la plupart des accidentés de route qu'on achemine au service des urgences de cet hôpital y arrivent sans argent et souvent sans aucun membre de famille. L'hôpital s'occupe donc de les soigner et d'assurer le suivi du traitement, en attendant évidemment que les membres de famille se signalent pour payer tous les frais de cette assistance médicale. Malheureusement, la plupart d'entre eux, dès qu'ils sont guéris, disparaissent sans crier gare. Suivant ces sujets, M. Mbaki Ndofuntu, infirmier au service des urgences de cet hôpital.
En tout cas, chez nous, nous accueillons souvent beaucoup de malades qui viennent en urgence. Quand on vous parle d'urgence, cela signifie qu'il y a des gens qui viennent souvent en mauvais état. Prenons l'exemple des accidentés qui viennent en catastrophe. Souvent, les accidentés que nous avons ici, ils n'ont pas de frères ni de membres familiaux. Ce sont des malades hors zone, qui sont des passages. C'est ce que nous appelons ATR. Ce sont des accidents de transport, des trafics routiers. Donc, ils peuvent provenir de Matadi, soit de Kins, mais ils n'ont pas de frères ni de sœurs. Mais nous leur donnons des soins adéquats pour sauver leur vie. Tout qu'on leur donne, ça ne nécessite pas qu'on demande l'argent. L'argent vient après. Souvent, nous leur donnons les soins d'urgence sans qu'on paye. Mais après tout, nous demandons l'apport de la famille qui va venir après 2 ou 3 jours. Mais souvent, nous avons des résultats un peu compliqués. Les malades fuient. Dès qu'ils sont guéris, ils partent sans pour autant payer. Mais nous continuons toujours à fonctionner malgré nous.
Mais voilà, on vient d'attendre. C'est quand même quelque chose de drôle. Marcel Gombo, l'infirmier dit que malgré tout cela, le travail se fait sans relâche. Mais il faut se le dire qu'en réalité, la prise en charge et le suivi médical des accidentés les plus au mieux.
Il s'agit de bien cela, Walter, puisque avec le temps, le personnel médical ne s'attelle plus à s'occuper comme il se doit de personnes accidentées qui n'ont pas de ressources financières. À l'exemple de ces jeunes chauffeurs accidentés qui, à faute de moyens, attendent depuis près de 4 jours à terre pour être soignés. Je vous propose de l'écouter.
Je suis un routier. Avant d'appeler à la question, je suis un chauffeur poids lourd. Depuis lundi, à 14h, je suis un accident vers Madimba. Évidemment, je suis un état vraiment trop critique. Malgré tout, je suis déclaré que la façon dont je suis malade, il faut que je me nomme. Alors, bilo qu'on n'est pas dans bango, a vu que salement mingi, ne épaisse bango maele, pour na biso, ba routier, to ba accidenté, to na batu, ou n'est bango, bazo sel la moussala na bango, ce qui mongo exate, en tout cas, et zama pas si pose au traitement.
Alors, Marcel, dites-nous, est-ce que vous avez eu l'occasion ou le temps, peut-être, de faire le suivi sur le cas de ce chauffeur accidenté?
Oui, Walter, c'était juste quelques minutes avant notre retour, et heureusement pour ces chauffeurs accidentés, puisqu'ils travaillent dans une société des transports, il y a le responsable de cette société qui sont arrivés, et c'était l'occasion pour lui de continuer à suivre les soins. Et ils ont payé.
Ah, ils ont payé. Au moins cette fois, un chauffeur qui a payé, mais voilà, on a suivi son témoignage, il témoignait du fait que il ne pouvait pas être soigné parce qu'il y avait manque de moyens. Cela doit être pénible de se retrouver dans une pareille situation, loin de tout secours, simplement par le fait que d'autres personnes ont, au fil de temps, abusé de la confiance de l'hôpital pour fuir. Marcel, est-ce qu'en dehors des cas des accidents, est-ce que les autres malades qui arrivent en urgence à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou bénéficient-ils d'un bon suivi médical, quand bien même dépourvus des moyens?
C'est peut-être le cas, Walter, si l'on s'en tient au témoignage recueilli auprès de 2 mamans de Kisantou que nous avons rencontrées au service des urgences au chevet de leurs enfants sous perfusion. On les écoute.
Moi, je suis belle. Et ben, ça fait déjà 3 jours. Tant que je suis en train de faire des perfusion. Et ça, c'est la caboye. Et par exemple, si je suis en train de faire des
Voilà des témoignages de malades. Marcel Gombo, merci beaucoup. On se voit l'année prochaine. Hein?
C'est ça, Walter. On se voit l'année prochaine.
Je n'arrive pas à le croire. Enfin, merci beaucoup. Bonne année, Domitien et Marcel.
Merci, Walter, à toi pareillement et à nos auditeurs.
Okapi.
Un seul pays, une seule radio. Okapi.
Et voilà, nous allons recevoir à présent notre invité, docteur Kimbondo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes, moi c'est Walter Molondi. Vous êtes médecin chef de staff à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou. On a entendu des témoignages des malades des villages environnants qui nous disent qu'ils sont toujours très bien accueillis. Aussi, malheureusement, d'autres histoires qu'on a entendues, qu'il y a des accidentés de la route qui parfois arrivent et une fois traités, ils fuient. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas comme cela?
Oui, cela est tout à fait vraiment régulier. C'est-à-dire que les gens arrivent en urgence et ils sont pris en charge. Et comme la plupart n'habitent pas à la Kisantou, la région, ils finissent par fuir dès que... ils ont été, disons, soulagés, c'est ce qu'on regrette souvent. Donc, ce qui pèse souvent un manque à gagner à l'hôpital.
Mais voilà, selon les témoignages recueillis, l'hôpital Saint-Luc est une espèce d'Eldorado dans un endroit, dans un milieu qui n'a pas beaucoup de formation médicale de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de la gestion de l'hôpital, pour maintenir la qualité de service et des soins, alors que l'on sait qu'il y a une déliquescence de services de soins de santé dans le pays?
Bon, l'hôpital bénéficie de l'appui... dans les organismes étrangers, entre autres le SLCD et, bon, Medicus Mundi. Et comme on essaie un peu de pallier à tout ça.
Mais au-delà de ça, quelle est la fréquentation de cet hôpital, la capacité, si vous voulez, même d'accueil de l'hôpital Saint-Luc de Kisantou?
Bon, l'hôpital... 200 lits, 300 lits, pour, disons, on a une capacité de 300 lits pour le moment.
Ouais. Oui, mais docteur Kimbondo, lorsqu'on parle de cet hôpital, Saint-Luc de Kisantou, on ne peut pas en parler sans évoquer la mémoire d'un grand praticien de la médecine, notamment, qui avait une spécialité par rapport à l'orthopédie. Est-ce que vous faites encore ce type de service au niveau de l'hôpital de Saint-Luc de Kisantou?
Oui, je vois qu'on fait allusion. C'est vrai que l'hôpital a eu une réputation pour l'orthopédie avec des saints à Tamakondo, mais le service reste fonctionnel et cette vocation, comme vous le dites, d'ailleurs, est liée plus au fait qu'au trafic routier qui nous envoie souvent les accidentés, donc qui fait que les accidentés. Donc l'activité reste toujours fonctionnelle au sein de l'hôpital.
Qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce que vous avez les mêmes spécialités actuellement? Quels sont les services, si vous voulez, liés à l'orthopédie notamment?
En orthopédie, pour le moment, on a le docteur Mastiadi, qui est en même temps le médecin directeur de l'hôpital. Sinon, l'hôpital, disons, le service est organisé comme tu crois que pour le moment, on a deux pavillons d'orthopédie, deux grands pavillons. Donc les activités continuent à se dérouler normalement.
Mais et c'est malade. Qu'est-ce que vous leur donnez? Supposons qu'un accidenté arrive et que vous devez lui amputer une jambe. Est-ce que vous avez suffisamment d'équipement pour faire des interventions de ce niveau-là?
Oui. En tout cas, pour l'équipement, on est assez bien fourni, comme je l'ai dit, avec l'appui des organismes étrangers. Donc sur le plan matériel, en tout cas, on n'a pas beaucoup de problèmes, surtout pour l'orthopédie. Donc, les interventions de ce genre se déroulent couramment, sans problème, même des ostéosanté. Et puis, l'hôpital aussi bénéficie de jumelage avec l'hôpital Saint-Jean de Bruges, en Belgique. Donc, on a assez de matériel pour ça.
Docteur Kimbondo, est-ce qu'il y a des patients qui quittent, par exemple, les villes plus loin de Kisantou, comme Matadi ou Kinshasa ou ailleurs à travers la RDC, qui viennent se faire soigner là-bas?
Oui, cela reste quand même fréquent. Même si ça a un peu diminué par rapport au passé dont vous avez, que vous avez évoqué. Mais on a régulièrement des gens qui viennent de Matadi, même de Kinshasa. Il y en a encore qui viennent pour l'orthopédie.
À vous attendre, on a l'impression que l'hôpital marche comme sur les rails. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir quand même quelques préoccupations qui vous empêchent d'améliorer la qualité des services, des soins de santé à vos malades, docteur?
L'hôpital. Bon, les préoccupations de l'hôpital, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a justement cette difficulté à recouvrer les frais. Mais on a aussi un problème pour la prise en charge de l'électricité et de l'eau. Donc normalement, l'hôpital devait bénéficier de l'appui du trésor public. Mais nous avons encore des difficultés pour cela au niveau des sociétés donc, de la SNEL et de la régie des eaux. C'est tout ça.
Oui, mais
qui n'accepte pas ce fait là-bas.
Mm-hmm. On a du mal à imaginer un hôpital qui fonctionne sans eau ni électricité. Lorsque vous avez des problèmes avec l'approvisionnement à partir des entreprises concernées, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les solutions palliatives auxquelles vous recourez au niveau de l'hôpital Saint-Luc de Kisantou pour corriger ce manque des entreprises publiques?
Bon, jusqu'à présent, on n'a jamais eu des interruptions. Donc, ils n'osent pas interrompre la fourniture. Mmh. Mais on a encore des grosses dettes qui nous réclament. Mais bon, mais en cas d'interruption accidentelle, l'hôpital pour l'eau a encore une petite station de pompage, non loin d'ici. Mais bon, cela n'est pas vraiment courant.
Ceci va être ma dernière question, docteur Kimbondo. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes à Kisantou et que par moment, la liaison téléphonique n'est pas très très excellente à cause de relief par là. Dites-nous, docteur Kimbondo, parce que apparemment l'hôpital, apparemment on l'a entendu des témoignages, l'hôpital Saint-Luc de Kisantou est l'une des institutions médicales les plus propres où les services est très bien assuré. Est-ce que vous avez, vous, à votre niveau, l'impression que vous devez encore améliorer quelque chose par rapport à ça? Et ça serait quoi, à votre avis?
Bon, sur le coup, bon, il y a des choses à améliorer, oui. Bon, il y a, comme on a dit, il y a encore le problème qui réellement plus dépend de nos conditions socio-économiques, comme vous avez évoqué. Il y a encore les salaires ou la prise en charge des salaires des employés. Là, pose toujours des problèmes parce que l'hôpital n'a pas la capacité comme de recouvrer totalement ses frais et de pouvoir assurer les salaires des employés. Ça, c'est un problème aussi qui pose beaucoup de problèmes à l'hôpital, à l'institution.
Et comment pensez-vous y répondre, docteur Kimbondo?
Mais on attend plus de l'État actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on attend plus, l'intervention de l'État.
Mais voilà, docteur Kimbondo, je rappelle que vous êtes médecin chef de staff à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou, que vous interveniez en direct depuis Kisantou, juste à côté du jardin botanique de Kisantou, cet Éden sur la route Kinshasa-Matadi. Nous vous remercions d'avoir été disponible pour répondre à nos questions et saisissons cette occasion pour vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de nouvel an 2005 et que vos voeux pour l'amélioration de la qualité des services de soins de santé à l'intention de vos malades puissent se réaliser.
Merci, c'est vous, je remercie. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Au revoir.
Au revoir.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité et se réjouit de vous retrouver demain 9h02 de Kinshasa.